où tu as des Australiens qui peuvent, des Britanniques ou des Américains. On peut regarder des shows dans toutes les langues, il n'y a pas de problème. Ici, dès qu'il y a un Québécois qui débarque, c'est « Ah, c'est charmant votre accent. Ah, c'est bien. Comment vous dites telle chose? » Mais on se prive culturellement. Il y a énormément de séries québécoises de très grande qualité. Ben, elles sont pas vues ici, simplement à cause de ce truc-là. Donc moi, je me dis, depuis que j'ai travaillé chez Énergie à l'époque, ça fait 10 ans, il y en a qui entendent mon accent. Mais peut-être que eux, quand ils vont entendre un Québécois, au lieu de faire « Ah, c'est charmant », ils vont juste écouter ce qu'il dit, puis en revenir. Parce qu'à un moment donné, ça va, on a été colonisés en, tu veux dire, au 15e siècle. Donc on peut, ben, techniquement, c'était au 16e, mais bon, on peut en revenir, ça fait 400 ans, 500 ans. Voilà, on a compris, on n'utilise pas les mêmes mots. Quand tu vois les accents qui entre le nord et le sud de la France, je crois qu'on est capable de comprendre l'accent québécois.
Vous habitez où aujourd'hui?
Selon le fisc, j'habite à Bruxelles jusqu'en mai.
Mm-hmm. Mais selon votre cœur?
Selon votre cœur, un des objectifs à vie, c'était d'habiter où je veux, quand je veux, entre les deux pays. Là, depuis juillet, j'ai habité au Canada pendant 6 mois et je revenais ici faire des allers-retours. En janvier, j'ai redéménagé ici. Mon grand rêve, ce serait de passer 9 mois par année au Canada, écrire un nouveau spectacle et en proposer un chaque année, un nouveau, me casser quand l'hiver devient vraiment un peu trop intense, genre du 1er février au 1er mai, 1er juin, venir faire une nouvelle tournée à chaque année en Belgique. Donc, j'aimerais passer 9 mois par année, 8-9 mois par année au Canada et 3-4 mois en Belgique.
Vous êtes connu au Québec?
Absolument pas. Et c'est très bien.
C'est très bien. Vous cherchez pas la notoriété
Plus je vieillis, moins j'en veux. Parce que je me dis, si déjà, la Belgique, pour travailler, c'est un pays parfait. Moi, j'ai déjà eu des...
C'est vrai qu'on peut être mauvais en Belgique et continuer à travailler quand même.
Mais c'est que je me suis déjà fait, je vais raconter ça. Je me suis déjà fait humilier par un douanier américain. Il me demande, c'est la première fois que je commençais à faire de l'humour. Il me demande, qu'est-ce que je fais comme boulot? Et moi, j'étais tout content de voir dire, I'm a comedian, sir. Puis il me dit, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas un humoriste au Canada? Et la seule réponse qui m'est venue en tête, c'est parce que c'est plus facile en Belgique, monsieur.
Mais comment ça se fait? Je pense qu'un Belge serait humoriste connu au Québec. Ben, la presse belge en ferait ses choux gras et ça deviendrait une star par ricochet. Vous, ça s'est pas passé comme ça? La presse canadienne s'est pas emparée de votre buzz sur le territoire belge?
Comment je peux dire ça? Si un Belge devient un très bon joueur de hockey sur glace au Canada, la Belge vont probablement en parler parce que c'est impressionnant. Ça. Mais un Canadien qui fasse de l'humour en Belgique, c'est tellement une industrie puissante et exceptionnelle. Je crois pas que ce soit impressionnant. Si j'étais chocolatier célèbre en Belgique, ce serait impressionnant. Ils en ont parlé, ouais. J'ai fait des late shows quand je suis arrivé au Canada. J'ai fait des équivalents de pages de journal. Mais c'est une histoire. Puis après ça, on passe à une autre histoire. Mais je le dis avec beaucoup d'amour parce que j'aime beaucoup la Belgique, mais il y a beaucoup moins ce complexe d'infériorité au Québec qu'il peut avoir en Belgique. En Belgique, on va parler du succès d'un Belge ailleurs parce que c'est une façon de se frapper sur la poitrine. C'est pas vraiment un réel intérêt. Je veux dire, quand Tia et le Boat est suivi partout à la télé parce qu'elle fait du saut en hauteur, il faut pas que les gens de la fédération de saut en hauteur commencent à s'exciter. Il y a personne qui s'intéresse au saut en hauteur en dehors de la famille de Tia et le Boat. C'est juste la victoire et la fierté nationale. Je crois que c'est un peu le même principe. Au Québec, c'est un petit peu moins le cas. Ça a déjà été le cas très fort. Mais au Canada anglais, tu vas avoir plus ça. Un Canadien anglais qui réussit aux États-Unis, là, on rappelle qu'il est Canadien anglais. Non?
Mm-hmm. Justin Bieber.
Par exemple, ça. Jim Carrey, Alanis Morissette, Mike Myers.
Oui, je pense que la liste est longue. vous avez la double nationalité aujourd'hui. Oui. Alors, outre le fait que ça huile probablement les rouages de vos relations avec l'administration. Oui. Est-ce que ça a une signification, un sens d'être belge pour vous? Parce que pour nous, les Belges, ben, on s'en fout un peu d'être belge, on ne sait même pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que pour un Québécois, ça veut dire quelque chose?
Ben justement, ça ne veut rien dire pour toi quand la seule chose que tu as fait pour être belge, c'est avoir la chance que tes parents copulent dans le bon pays. Tu vois. Moi, j'ai dû mériter ma nationalité belge. J'ai dû faire, c'est pas des blagues, c'était 7-8 ans d'administration, des permis de séjour à répétition. En Belgique, un permis de séjour illimité est limité à 5 ans parce que, au diable, la définition du dictionnaire. J'ai dû faire pipi dans des bocaux. On a mesuré ma colonne vertébrale. C'est pas des blagues. On a mesuré ma fucking colonne vertébrale, voir s'il y avait pas des... Et donc, quand je suis devenu... Et je suis arrivé, j'étais chroniqueur. Quand je travaillais chez Énergie, pendant tout un temps, c'est moi qui faisais les interviews politiques. Mais t'arrives du Québec et tu dois interviewer le futur premier ministre. Ben, t'as plus de travail que les autres à faire. Donc, moi, ma culture belge, je l'ai gobée par choix. Je l'ai assimilée. Et donc, j'étais fier. J'étais fier d'être ici. Fier que ce pays m'accueille aussi. Et j'avais envie de redonner au pays comme le pays m'a donné. Moi, je suis né au Québec, mais j'existerais absolument pas professionnellement. C'était pas ici. Tout ce que je possède, tout ce que j'ai, toute mon émancipation vient ici et vous êtes en grande partie redevable. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés, j'étais assez limité au niveau des horizons intellectuels. Et franchement, grâce à vous, si j'ai pu m'ouvrir, et c'est pas une blague. Et donc, ouais, je suis belge, je suis fier. Le belge a beaucoup de mal à recevoir des compliments. D'ailleurs, si je vous insulterais, je suis sûr que ce serait plus simple à capter que ce compliment, mais il est sincère. Et c'est pour ça que je vais continuer de venir en Belgique. Je vais continuer de dire que je suis belge. Et ce qui m'a le plus fasciné avec la Belgique, quand on parle d'humilité, c'est quand je suis devenu belge, je pensais que ça allait faire une histoire. Tu vois? Personne n'a vu quoi que ce soit. Je suis devenu belge. Pourquoi? C'est la phrase qu'on m'a plus dit. Mais pourquoi? Et je dis, je garde quand même la nationalité canadienne. On fait, ah, OK, ça va. Je veux dire, non, je ne sais pas si on est dans l'humilité ou dans le complexe d'infériorité, mais c'est quelque part entre les deux.
On est arrivé, Dana, à ce moment de l'émission où vous ne parlez plus.
Profitez bien.
Je vais vous raconter une histoire. C'est toujours le portrait de quelqu'un à qui il est arrivé quelques bricoles. J'essaye de faire en sorte que ça parle à mon invité. Et pour vous, j'ai choisi de parler d'un certain Andy Kaufman. Récemment, le magazine Newsweek osait une thèse farfelue. Et si Donald Trump n'existait pas, et si le nouveau président des États-Unis, celui dont on peine à croire tant il est incroyable, était en fait un artiste prétendument mort d'un cancer du poumon en 1984, Andy Kaufman. Et pourquoi pas, au fond ? Kaufman l'avait lui-même annoncé, il ne mourrait jamais, son décès ne serait qu'une mise en scène et un jour il reviendrait. Il avait même promis de ressurgir 20 ans après sa mort et le 16 mai 2004, ses proches survivants l'attendaient. Mais non. En 2015, à l'occasion des 40 ans de l'émission Saturday Night Live, dont Andy Kaufman avait souvent été l'hôte, ses fans priaient pour qu'il y déboule, et même pour qu'il y fasse éruption sans y avoir été invité, comme il avait l'habitude de faire avec les shows télé. Mais non, encore non. Depuis 1984, personne ne s'en est directement revendiqué, mais on lui voit fleurir des amis et des membres de la famille. On lui a ainsi découvert une soi-disant fille, née après sa mort, qui prétendent qu'Andy va très bien, qu'il joue au golf avec Elvis sur son île déserte. Elvis, qu'il a par ailleurs beaucoup singé dans un de ses sketchs les plus célèbres, où il alignait les imitations foireuses avant de se lancer dans un pastiche du King, à ce point impressionnant que le chanteur lui-même avait décrété que c'était le meilleur en circulation. Presley avait d'ailleurs chez lui une collection de cassettes d'Andy Kaufman. Difficile de définir celui qui refusait l'étiquette de comique, qui détestait les blagues et qui préférait largement s'amuser qu'amuser les autres. Mais qui y parvenait pourtant. Après un moment de malaise où l'audience se demandait toujours un peu ce qu'elle faisait là, Kaufman ne cherchait pas le rire, mais les « gut reactions », les réactions qui viennent des tripes, peu importe qu'elles soient séduites ou écœurées. C'était le maître du silence, le roi des interminables tunnels de blanc. Il refusait d'être pris en otage par le public, c'était lui qui le manipulait, et pas le contraire. Et alors qu'on lui réclamait sur scène un de ses personnages les plus populaires, il punit le public en interrompant la représentation et en lui lisant in extenso « Gatsby le magnifique » de Scott Fitzgerald, jusqu'à ce que la salle se vide. Inventeur et champion du monde de catch mixte, c'est-à-dire de combat contre des femmes, ce maître du politiquement incorrect fut en 1999 le héros d'un film de Milos Forman, Man on the Moon, du nom d'une chanson de R.E.M. qui parlait de lui, en faisant un parallèle entre les théories conspirationnistes sur la conquête de l'espace et les rumeurs qui entouraient la mort de l'artiste. Le groupe, peut-être mieux informé que les autres, concluait par ceci « Monsieur Andy Kaufman, on a fini de lutter ». On a encore quelques petites minutes à passer dans Coupé au montage avec l'humoriste Dan Gagnon. Je suppose que vous le connaissiez, ce monsieur Andy Kaufman.
Quand on parle de courage et de faire des spectacles qui soient beaux, comme un album de Leonard Cohen, Andy Kaufman était beau. C'était quelqu'un qui était beau, qui prenait des risques. Je crois que le plus bel enseignement que j'ai reçu d'Andy Kaufman, c'est la meilleure façon de jamais réussir à faire quoi que ce soit de génial, c'est si tu continues d'avoir peur de l'échec. Parce que l'échec le plus retentissant vient exactement du même point de travail que le génie absolu. Dans les deux cas, c'est du doute, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, et c'est le fait de ne pas savoir. Si tu dois toujours un petit peu savoir avant de faire, tu vas toujours faire des choses qui ont déjà été un petit peu faites, et ça ne sera jamais génial. Lui, quand il lit The Great Gatsby jusqu'à ce que tout le monde s'en aille, ça se trouve, le lendemain, tout le monde lui en veut. Tu parlais du catch. Son agent l'a découragé plein de fois en disant « Andy, on ne peut pas te voir en train de taper des femmes, ça va... » Et il a perdu énormément de popularité à ce moment-là, parce qu'en plus, il jouait le méchant, parce que ça l'amusait de jouer le méchant qui tapait en des trucs de catch. Je l'ai vu une fois se faire sortir de chez Letterman, David Letterman, le gars qui faisait du Late Show, parce qu'il faisait un sketch sur le fait qu'il était fauché, mais il allait au bout, où il se levait de sa chaise et il allait demander de l'argent au public. Et quand le public venait donner de l'argent, t'avais un garde de sécurité qui arrivait, qui rassoyait les gens, qui a sorti Kaufman, et il n'y a jamais eu d'explication. Et Letterman, c'était il est sous-estimé totalement. C'était le meilleur pour laisser les gens être qui ils étaient, même s'ils étaient bizarres. Et dans un monde aujourd'hui, tu dois être une chose. Tu dois être humoriste, tu dois être marrant, tu dois être celui qui fait du malaise. Tu dois, parce que sinon, on part du principe que le public est trop con pour comprendre que tu puisses être deux choses. Mais Andy Kaufman est un bel endroit chez qui retourner. Vous allez lire des trucs, vous allez faire, mais il était pas drôle en fait. Fait oui, exactement, il était pas drôle en fait. Lis, informe-toi et vois qu'on peut être plus qu'une chose. Et c'est la seule façon d'être joli, c'est d'être plusieurs choses en même temps.
Diden, on est presque arrivé à la fin de cette émission. J'ai encore une toute dernière question à vous poser. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
Avoir des envies. J'ai fait une dépression et quand tu arrêtes d'avoir envie, c'est la fin de tout parce que le temps, il ne te sert à rien. Et les gens deviennent fades et ce n'est pas eux le problème. Le fun n'existe plus. Tant que tu as des envies, peu importe c'est quoi. Et vraiment, et puis... J'espère pouvoir continuer de transmettre des valeurs positives parce que j'ai eu de la chance. Moi, j'ai toujours été entouré de gens qui m'aimaient beaucoup. J'ai toujours été entouré de gens qui étaient absolument fantastiques. Et j'essaie, et c'est une vraie mission. Moi, j'ai la chance d'avoir été heureux, d'avoir été bien entouré. J'espère avoir un impact positif sur les gens en transmettant des valeurs positives. Et si je peux réussir ça, ça va être une des seules façons que je pourrais dire que j'ai réussi ma vie en disant j'ai influencé des gens à être des meilleures personnes.
Merci beaucoup, Dan Gagnon. Je rappelle qu'on peut vous voir à la télé de temps en temps dans 69 minutes sans chichi, l'émission de Joël Scorils, mais aussi et surtout que votre première tournée d'adieu débute ce 29 janvier au Petit Chapeau Rond Rouge à Bruxelles. Apparemment, c'est complet.
Ouais.
Mais c'est une tournée pléthorique qui vous emmènera aussi dans des contrées aussi exotiques que Paris, Crisney et Libramont.
Très différent comme ville. Les trois, c'est très différent.
Toutes les infos sur votre site dangagnon.be puisqu'il y a quand même quelques dates. Coupe au montage, ça se termine ici. Gros merci à toute l'équipe qui fabrique cette émission en coulisses et qui en fait quelque chose qui s'écoute à la radio et qui se regarde à la télé. Gros merci à vous d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous ici même la semaine prochaine et je vous souhaite évidemment une rutilante soirée.